Asie, pénurie d'énergie, réserves stratégiques de pétrole, les options possibles pour se couvrir en bourse contre le choc systémique, émissions spéciales, empiriques, chiffrées et théoriques. Dans cette vidéo, vous allez assister à première partie. Définissons ce qu'est le risque systémique. Le risque systémique, c'est quoi? Y a-t-il un risque systémique pour le monde? S'il n'y a pas de risque systémique pour le monde, y a-t-il, et là ce sera chiffré et empirique, un risque systémique pour l'Asie? Les réserves stratégiques de pétrole, quelles sont-elles réellement? Sont-elles mobilisables? Combien de jours cela représente? Où se situent-elles? Réserves stratégiques de pétrole, le nouvel espoir contre le choc systémique, est-il suffisant? Se couvrir en bourse, se couvrir en bourse contre le choc systémique sur toutes les classes d'actifs. Alors c'est simple, effectivement, on peut être 100% en cash. Voilà, c'est la meilleure façon de se couvrir. Et encore, ça se discute, vous allez voir, 100% en gold, et encore, ça se discute, vous allez voir, les contrats futurs, les options, nous passons tout en revue émission, empirique, chiffré, théorique, se couvrir en bourse contre le choc systémique en lien avec les événements du moment, et bien sûr, en lien aussi avec la généralité du principe de se couvrir en bourse contre le choc systémique. Bienvenue, nouvelle édition du Top Gun.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Le risque systémique, c'est quoi le risque systémique? C'est quoi la véritable question? Porte sur la nature systémique ou non de la menace économique liée au conflit géopolitique actuel, entrée dans une phase guerrière depuis le samedi 28 février 2026 et qui s'ajoute à la guerre en Ukraine en place depuis le 24 février 2022. Qu'est-ce que le risque systémique? Le risque systémique est la possibilité qu'un événement négatif affectant une institution, un marché, un acteur important, donc à la base un fait isolé, dans son coin, un premier domino, entraîne une réaction en chaîne qui déstabilise tout un système, toute une institution, tout un marché. Dans notre cas de figure, la fermeture d'Hormuz est ici le choc isolé qui pourrait faire sombrer l'Asie, tous les chiffres arrivent. Caractéristiques donc du risque systémique, interconnexion, effet domino, perte de confiance généralisée et impact macroéconomique global. Alors, comment se couvrir contre le risque systémique? Le détroit d'Hormuz est-il systémique pour le monde? Ce sujet a été traité mille fois, je l'ai traité dans mes dernières vidéos. Donc là, je vais être très rapide, je remonte. D'abord, les chiffres essentiels, que tout le monde les ait définitivement en tête. Et là, la nouveauté de cette vidéo, c'est que nous allons avoir un focus sur l'Asie. En fait, c'est l'Asie qui est concernée, mais ça, vous le savez, puisque plus de 80%, 85% de l'énergie qui transite par le détroit est en direction de l'Asie. C'est le top 5 des grandes économies asiatiques qui est menacée. C'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Amérique latine, c'est pas l'Afrique. C'est tous les chiffres que nous allons regarder, donc c'est parti. Mais je vais faire un rapide rappel du monde. Ce slide, je vous l'ai déjà montré. C'est ce que les anglo-saxons appellent les shock points maritimes du commerce mondial. Simplement, donc déjà pour vous rappeler encore une fois, je n'apporte aucune nuance. Alors oui, j'apporte de la nuance ça tout le temps, mais je ne minimise rien. Parce que dans tous les cas, même si le détroit ouvre, même, vous savez, ce sont des compagnies maritimes qui passent par le détroit. Elles se sont mises à l'arrêt. Combien même ça reprend, déjà ça va prendre du temps. Même toutes les installations énergétiques autour du Golfe, ça faut du temps pour les relancer. Ensuite, les primes d'assurance ne seront plus du tout comme auparavant. Donc, de toute façon, tout prendra du temps, combien même des perspectives de réouverture arrivent. D'accord? Donc, mais déjà, rappelons une chose, puisque là, on est dans le sujet de savoir si c'est systémique ou pas. Premier élément de réponse, vous avez dans le monde 10 détroits qui comptent. 10 passages, ce ne sont pas que des détroits, 10 passages maritimes majeurs. 10 passages maritimes majeurs. Effectivement, le détroit d'Hormuz est le numéro 1 en termes d'énergie, mais vous voyez qu'il n'est pas le numéro 1, par exemple, en termes de pourcentage du commerce mondial. En termes de pourcentage de commerce mondial, c'est le détroit de Malacca. Hormuz, Malacca, canal de Suez, Bab el-Mandeb, le canal de Panama, détroit de Gibraltar, etc., le cap de Bonne-Espérance. Donc déjà, première chose, effectivement, il y en a un qui ferme, c'est 1 sur 10. Mais qu'est-ce qui est systémique? C'est en fermer 1, en fermer 2, en fermer 3, en fermer... fermer Hormuz et Malacca, c'est probablement systémique. Fermer Hormuz ou que Malacca, c'est important, est-ce pour autant systémique? Bon, ça, c'est une question, c'est un débat, je vous donne les chiffres. vous de vous dire si c'est systémique. Bien sûr, moi, je vais donner mon point de vue. Donc déjà, ça, je vous le rappelle, ces chiffres, nous les avons déjà vus. Je vais vite parce qu'on les a déjà vus pour aller rapidement vers la nouveauté de cette vidéo, qui est vraiment concentrée sur l'Asie, sur les réserves stratégiques de pétrole et sur toutes les possibilités de couvrir son portefeuille boursier. Simplement pour rappeler, Hormuz, donc 25% des engrais azotés du monde, donc bien sûr en pourcentage du commerce mondial. Hein. Le GNL, c'est 20%, rappelez-vous, 20% du GNL, le gaz. Le GNL, c'est 20% du gaz, 20% de 20% égale 5%. Pétrole, 15%, méthanol, 30%, pétrochimie, 10%, aluminium primaire, 5 à 10%. Ces chiffres, vous les connaissez. En ce qui concerne le GNL, ce que je vous avais déjà rappelé, c'est que c'était pas... Alors, c'est pas systémique d'un point de vue du gaz à l'échelle du monde, puisque le GNL, gaz naturel liquéfié, qui est le gaz qu'on transporte par bateau, représente 20% du gaz mondial. Hormuz représente 20% de ce GNL, 20 de 20 égale 5. En ce qui concerne l'Europe, le gaz européen d'ailleurs n'a pas franchi cette résistance alerte rouge dont je vous parlais. Pourquoi ? Parce que c'est le Qatar qui exporte le GNL et le Qatar représente 10% des approvisionnements européens. Donc voilà, mais là on continue, effectivement ça se discute, alors c'est un risque important. L'inflation, je vous l'ai déjà expliqué, que l'effet direct et indirect gaz et pétrole, c'est 15 à 20% du calcul des taux d'inflation. N'oubliez pas aussi le facteur temps, cela représentera un risque, surtout si les prix se maintiennent élevés, plus de 3 mois, moins de 1 mois, il n'y a pas d'impact, ce sera nul, je vous dis, moins de 1 mois, il n'y aura aucun impact, un impact modéré de 1 à 3 mois, voilà, toutes ces données, vous les avez en tête, ce facteur temps, on a déjà parlé un certain nombre de fois. Alors maintenant, vous savez, c'est là où finalement je pense qu'il y a une réalité systémique, effectivement, risque systémique pour l'Asie, et là on ne parle pas et là on parle quand même du top 5 des économies asiatiques, et qui sont de toute façon dans le top 5 aussi, dans le top 10 des économies mondiales, effectivement, un risque systémique pour l'Asie, oui, c'est un risque systémique pour l'Asie. Alors, face à ce risque systémique, il y a bien sûr les réserves de pétrole. Les réserves de pétrole, en fait, le vrai sujet, c'est y a-t-il un risque de pénurie ? Si vous voulez, la nature systémique du risque est liée à un moment ou à un autre à un ensemble d'économies qui ne sont plus en état de fonctionner parce qu'elles ne sont plus alimentées en énergie. Et à l'échelle du monde, les chiffres ne sont donc pas très impressionnants, enfin, ils sont importants, mais pas très impressionnants, puisque donc 15% du pétrole mondial transite par le détroit d'Hormuz, et donc 5% en fait, du gaz mondial, enfin 20% du GNL. Donc, on peut se dire qu'il y a des moyens, des alternatives, et puis il y a aussi cet enjeu des réserves stratégiques de pétrole. On va voir pour chaque pays combien de jours ça représente, mais il y a un vrai sujet pour l'Asie, puisque donc plus de 80% du pétrole qui transite par le détroit est à destination de l'Asie. Plus de 80% du gaz naturel liquéfié transite aussi par le détroit. Donc est en provenance du Qatar et des Émirats Arabes Unis, et ce GNL n'a pas le choix, il faut passer par le détroit. Donc là, il y a un sujet, puisque vous avez notamment les deux plus importantes puissances démographiques du monde. La Chine, première économie mondiale à parité de pouvoir d'achat. L'Inde sera très prochainement la troisième économie mondiale. Enfin voilà, le Japon, c'est énorme aussi. Bon, Corée du Sud, n'en parlons pas. Donc, il y a un vrai sujet pour la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. Et là, effectivement, on peut se poser la question de la nature systémique ou pas de ce risque. Risque systémique pour le top 5 des économies d'Asie ? Oui. Alors, moi, vous connaissez, dans mes vidéos, j'apporte beaucoup de nuances. Je suis quelqu'un qui est positive oriented, voilà, comme diraient nos grands amis anglo-saxons, qui encore une fois nous ont libérés. Mais alors, bien sûr, le risque est donc systémique pour le top 5 des économies d'Asie. Et voici donc quelques chiffres que j'ai rassemblés pour illustrer ce propos. Bien sûr, ces chiffres, et j'arrête de dire bien sûr, ces chiffres reflète un risque systémique, sauf s'ils peuvent être contrebalancés par un amortisseur. L'amortisseur en question, ce sont les réserves. Quel est le montant de ces réserves ? Où sont-elles ? Que maintenant ça prend ? Combien de jours ? Et puis, si vous commencez à taper dans les réserves, derrière, il faut les reconstituer. Et si la situation ne s'est pas améliorée, puisque ça va prendre du temps, même si ce conflit se termine plus vite que ce que l'envisagent les collapsologues, la relance de la machine, là, ça va prendre du temps. Dès lors qu'on met un arrêt à un système industriel, on n'appuie pas sur « on » pour le relancer du jour au lendemain. Et puis beaucoup de choses changent, notamment ce qui concerne les primes d'assurance. Bon, dans tous les cas, je pars dans tous les sens, mais regardez donc le tableau que vous avez sous les yeux. J'essaie de faire des vidéos plus rapides. J'essaie de faire toujours le même contenu, chargé, mais plus rapide. Bon. Donc, oui, la Chine, c'est énorme. 47% de ses importations passent par le détroit. 47% de ses importations de pétrole passent par le détroit. En ce qui concerne la dépendance au gaz naturel liquéfié, c'est 25 à 30%. Le Japon, c'est énorme. 73% de ses importations de pétrole passent par le détroit. 20 à 25% pour ce qui est du GNL. L'Inde, 40 à 42% des importations de pétrole. 40% pour le GNL. La Corée du Sud, pourquoi eux qui sont en panique et que le Kospi peut prendre des séances de forte baisse. Alors bien sûr, il était vertical, en verticalité haussière, la tech, etc. Mais bon, là aussi, là, la Corée du Sud, il n'y a même pas de sujet. C'est archi systémique. Donc vous voyez tout de suite que on reprend les chiffres globaux, qui sont que 15% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par Hormuz. 15%, ça fait pas peur. Mais c'est à l'échelle du monde, parce qu'il y a des pays pour lesquels c'est quasiment zéro. Mais si l'on affecte ça au top 5 des économies asiatiques, et le PIB asiatique, le PIB d'Asie est désormais le plus important du monde, et son poids relatif va continuer d'augmenter, avec notamment l'augmentation significative du poids relatif d'économies comme l'Inde ou l'Indonésie. Là, et c'est aussi le cœur du commerce mondial, on n'apprend rien pour ce qu'est la Chine, premier importateur et premier exportateur du monde, bon, maintenant loin devant les États-Unis et l'Allemagne, les chiffres là font peur. Les chiffres sont de dimension systémique, et en particulier donc pour la Corée du Sud. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est y a-t-il des amortisseurs ? Y a-t-il des amortisseurs à ces risques ? Les réserves stratégiques de pétrole sont-elles une couverture fiable et durable contre la pénurie ? Les réserves stratégiques de pétrole sont-elles une couverture fiable et durable contre la pénurie ? Alors, première chose, l'actualité géopolitique évolue en permanence. Vous avez qu'à regarder Polymarket. Sur Polymarket, vous avez tout type de mesures du sentiment via des paris. Et les paris ne cessent d'évoluer sur « y aura-t-il un cessez-le-feu d'ici la fin du mois de mars, mi-avril, etc. » En fait, même, j'en veux dire, peu importe. Alors bien sûr, si, ça importe, mais quelle que soit la durée du conflit. Imaginons best case scénario. Ça va très vite. Les hostilités s'arrêtent. Et le détroit est déclaré réouvert. Dans tous les cas, ça va prendre du temps. Parce que déjà, les mines ont été posées. Alors, peut-être pas beaucoup. La plupart des navires poseurs de mines iraniens sont détruits, mais peu importe. Il faut aller sonder, il faut aller vérifier. Vous croyez que les marins vont repartir comme ça, la fleur au fusil, comme l'armée française en 1870, qui s'est fait écraser, d'ailleurs, au passage, par l'armée prussienne et l'armée des États allemands à l'époque. Non. Déjà, il va falloir vérifier. Tout ça prend du temps. Je ne veux pas jusqu'à dire déminer, mais vérifier. Bref, on verra bien. Ensuite, une fois que le passage est à nouveau sûr, il y aura toujours la peur que le conflit reprenne, les primes d'assurance vont rester élevées, et puis il faut relancer la machine industrielle qui a été mise à l'arrêt. Et ça, vous avez qu'à écouter des industriels, et notamment le patron d'Aramco, qui vous dit que ça ne se fera pas du jour au lendemain et que ça aura un coût. Donc, le flux passé, même en cas de scénario géopolitique positif, va mettre du temps à reprendre. Donc la question des réserves, elle est déjà d'actualité maintenant. On va taper dedans, ils vont taper dedans. Donc là, je vous ai montré juste avant ce que représente le pétrole et le gaz pour le top 5 des économies asiatiques. Maintenant, vous avez sous les yeux un nouveau tableau. Donc le top 15 des économies mondiales et leurs réserves stratégiques de pétrole. Donc vous avez ici le top 15 donc des économies mondiales, alors selon le critère du PIB, hein. Voilà, PIB nominal. Et alors oui, le Japon est derrière l'Allemagne maintenant tellement le yen a chuté, mais ça c'est du nominal. Le classement est différent, parité de pouvoir d'achat, mais on s'en fiche, peu importe, c'est le top 15. Vous avez ici les réserves en millions de barils, et là le jour de consommation couvert. C'est pas si énorme que ça. États-Unis, 84 jours de consommation couvert. Alors eux, ils sont pas concernés, hein, complètement du détroit. La Chine s'en fiche pas. Seulement 60 jours de consommation ouverte. Alors attention, La Chine a 220 millions de barils de pétrole stockés et elle aurait aussi stocké 40 millions de barils au large de ses côtes. Du pétrole dit illégal, enfin le pétrole illégal enfin, selon l'Occident. Voilà. Donc 40 millions de barils, elle aurait stocké 40 millions de barils au large de ses côtes. 220 millions de barils en réserve stratégique sur son territoire, ça ne fait que 60 jours de consommation. Allemagne 81 jours, Japon 230 jours, Inde, là c'est touchy, seulement 10 jours. Et je viens de vous montrer le poids d'Hormuz dans les importations d'énergie de l'Inde. Royaume-Uni 47 jours, la France 92 jours, l'Italie 90 jours, etc. La Corée du Sud 110 jours. Donc là je vous ai remis en rouge le top 4 des économies d'Asie, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. 60 jours, 230 jours, 10 jours, 110 jours. Ce sont des réserves. Alors, bien sûr, ces pays-là, et l'Inde a déjà commencé à réaugmenter ses importations en provenance de Russie, mais tout de même, il y a un risque, et en fait, qui est un risque pour maintenant, qui est un risque pour maintenant, et ce, j'ai envie de dire, quelle que soit l'évolution de la situation géopolitique. Alors finalement, c'est le facteur temps, on y revient, qui va décider de la nature systémique ou non systémique de ce risque. Donc je vous laisse vous-même faire votre propre opinion. Moi, j'essaye simplement de regarder les chiffres et de pas non plus les surinterpréter. Mais si on fait une synthèse de ce type-là, pour la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud, vous avez les réserves en nombre de jours. Vous avez donc la dépendance à Hormuz, donc qui va servir de coefficient, et donc le temps estimé avant une tension pétrolière. Le temps estimé avant une tension pétrolière, 128 jours, 315 jours, 25 jours et 169 jours. La tension pétrolière, c'est le moment où, si vous voulez, vous allez être obligé de mettre volontairement votre économie à l'arrêt, parce que, et certains pays d'Asie ont déjà commencé, notamment en ce qui concerne l'activité de la fonction publique, parce que vous n'êtes pas certain d'avoir l'énergie pour alimenter cette activité. Et mettre volontairement une économie à l'arrêt, ça vous rappelle quoi ? Ça rappelle les effets de la crise sanitaire. Pour le coup, là, ça avait été une mise à l'arrêt à l'échelle mondiale. Et derrière, rappelez-vous le choc inflationniste qui a suivi la mise à l'arrêt. Donc là, ça va rappeler de mauvais souvenirs. Donc c'est pas bon du tout, la mise à l'arrêt. Parce que le fait de prendre du temps pour relancer la machine crée ensuite un décalage offre-demande. Et c'est ça qui avait créé... C'est pas la guerre en Ukraine qui était responsable de l'inflation, de la vague d'inflation de 2021-2022. C'était la mise à l'arrêt des économies. Donc le temps estimé avant tension pétrolière, le temps estimé avant mise à l'arrêt partielle des économies, là ça devient tendu. Et vous voyez que en ce qui concerne la Chine, la Corée du Sud ou l'Inde, on n'est pas sur un an, deux ans, trois ans. On est sur 3-4 mois. Et combien de temps il faut pour que le détroit d'Hormuz reprenne son activité d'avant, pour que la machine se relance, pour que la sécurité soit totale? Ça peut se compter dans ce nombre de jours-là, vous voyez? Donc, effectivement, là, la situation peut être complexe sur ce sujet. Se couvrir en bourse face au risque, face à un choc systémique. Alors, dans mon idée, j'ai voulu passer en revue, en fait, tout ce qui est possible, imaginable. Bien sûr, la meilleure façon de se couvrir en bourse, vous allez me dire, la meilleure façon de se couvrir en bourse, c'est de ne pas être investi en bourse. Pas être investi en bourse, ok. Je suis d'accord avec vous, c'est la meilleure façon de protéger son capital. Et encore, le risque inflationniste, la perte de pouvoir d'achat de votre capital, la perte de pouvoir d'achat du cash que vous avez sur votre compte. Et là, du coup, il y a quand même un risque. Alors, il ne sera pas systémique, puisque alors ça dépend, en cas, s'il y a vraiment un choc inflationniste majeur, ce ne sera pas le cas. Donc là, je m'adresse vraiment à des investisseurs qui ont un portefeuille boursier, qui peut être réparti de différentes façons, 50% en actions, je sais pas, 25% d'obligations, 25% en placement monétaire ou que sais-je encore. L'idée est de savoir quels arbitrages il est possible de faire pour justement hedger donc son portefeuille boursier. Alors, il y a plusieurs éléments, cash et placement monétaire, et pour chacun d'entre eux, je vais vous donner des illustrations et mes commentaires. Bien sûr, première stratégie, avoir du cash. Augmenter la part du cash. Alors, on va voir que font les gérants. Vous allez voir, c'est intéressant. La part du cash avant le conflit, hein. Juste avant le conflit, la part du cash chez les gens est au plus bas. Donc, ils peuvent simplement remonter cette part du cash. prenez un fonds d'asset management classique, investi à 70% en actions, 25% en obligations, 5% en cash, ils peuvent réaugmenter le poids du cash. Ça, mécaniquement, ça entraîne une correction, mais eux, ça les met à l'abri. Donc, bon, je vais vous montrer les données. Donc, première stratégie, le cash ou les placements monétaires. Deuxième stratégie, elles se discutent toutes, les obligations souveraines. Troisième stratégie, être investi en or, en argent ou sur le dollar américain. Être directement donc investi en pétrole et énergie, qui subissent donc à travers la raréfaction de l'offre et la contrainte d'offre une augmentation des prix, via les contrats futurs, les contrats d'options ou encore tout type de contrats qui permettent d'être exposés au prix du pétrole ou à l'énergie. Alors, il y a bien sûr les compagnies pétrolières, mais là encore, il faut faire attention parce qu'elles peuvent être aussi sous, leurs infrastructures peuvent être sous pression. Il y a beaucoup de choses qui... Alors, on va en parler, mais je pense qu'en ce qui concerne le pétrole et l'énergie, mieux vaut être investi sur un extracteur pur. Extracteur-revendeur pur. Je pense que là, ils seront moins soumis, si vous voulez, au risque de ralentissement du cycle macroéconomique, comme pourrait être, par exemple, une compagnie pétrolière. Il faut aller sélectionner celle, justement, vers qui on va se tourner pour faire face à la pénurie. Bien sûr, le secteur de la défense. Autre possibilité, donc, ouvrir une position short, donc être short-seller, être vendeur, gagner de l'argent en s'exposant à la baisse d'un actif financier. On peut faire ça à travers un certain nombre de produits. Ce sont des produits à effet de levier. Les contrats futurs, les contrats d'options, les CFD, même des ETF. On peut très bien shorter un ETF. Il y a des ETF qui aussi jouent la baisse. Bon, il y a plusieurs façons de s'exposer. Être long de la volatilité. Alors, options, se couvrir via les options sur les indices boursiers. Typiquement, on a une option put. Alors, moi, je vous conseille d'aller sur les contrats les plus liquides. Et le contrat le plus liquide du monde, le contrat à terme le plus liquide du monde, le marché des options, c'est le contrat S&P 500. Donc, concrètement, quel strike, quelle duration, je vais vous donner mon point de vue. Alors, être short des valeurs cycliques, l'aérien, le tourisme. Alors là, ça se discute, je l'ai mis dans le tableau. Bitcoin, actif numérique avec ce soi-disant statut d'or numérique. Pour l'instant, on voit que c'est surtout corrélé aux actifs financiers. Mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a le Clarity Act qui va bientôt passer au Sénat et qui pourrait changer la donne. Et bien sûr, après, vous avez tout un tas d'actions complètement décorrélées du risque dans les services publics, la santé, l'alimentation, ou même d'autres secteurs. Tenez, je vais vous donner par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une action française, d'une machine à cash. Je vous laisse trouver machine à cash, machine à sous, monopole d'État. Rien à faire de la géopolitique mondiale, rien à faire. Machine à cash. Bon, il y a des façons comme ça d'aller sur des actifs décorrélés. Donc, première partie, se couvrir en bourse face à un choc systémique, cash, placement monétaire. Cash, placement monétaire, ça peut paraître effectivement la chose la plus simple. Et oui, et c'est probablement la première chose qu'il faut faire face à un risque de choc systémique, parce que le choc systémique peut faire tomber donc l'économie mondiale en récession. Et d'ailleurs, je vous montre, ce sont des chiffres donc qui viennent de la BofA, donc c'est la Bank of America Fund Manager Survey, c'est fait tous les mois. La part du cash chez les gérants est actuellement au plus bas historique. La part du cash chez les gérants est actuellement au plus bas historique. Et souvent, lorsque cette part du cash est sur une zone basse historique, on n'est pas loin d'un top de marché majeur. J'ai hâte, moi, de prendre connaissance, donc mi-mars et probablement encore mi-avril, de l'évolution des études de la Bank of America. Je suis persuadé que la part du cash chez les gérants commence à réaugmenter. Deuxième option, les obligations souveraines. Alors, ça peut être une fausse bonne idée. Pourquoi ? Effectivement, c'est ce qu'on appelle le flight to quality, c'est-à-dire que classe d'actifs de marché action, marché obligataire, marché action, marché obligataire, liquidité. En cas de risque de ralentissement économique et de risque de récession, effectivement, il y a un arbitrage des actions vers les obligations des pays les mieux notés, les obligations souveraines des pays les mieux notés. Il faut faire attention Il y aura vraiment un transfert des capitaux des actions vers les obligations si la probabilité d'une récession mondiale augmente significativement. Car s'il n'y a pas de récession mondiale, mais simplement une tension sur les prix de l'énergie, vous allez avoir une augmentation des taux d'intérêt du marché en lien avec des perspectives de hausse de taux des banques centrales pour contrer ce choc inflationniste. Mécaniquement, vous avez un principe qui est celui de la corrélation inversée entre les taux d'intérêt et le prix des obligations. Si les taux remontent, le prix des obligations peut baisser. D'ailleurs, lorsque vous regardez le comportement des taux d'intérêt, le 10 ans américain ici, le 2 ans américain ici depuis le début du conflit, il y a une tendance à remonter. Donc pour le moment, c'est corrélé au prix de l'énergie. Alors, stratégie de couverture face à un risque systémique, l'or, l'argent ou le dollar américain. Alors effectivement, là, rien de nouveau. L'or et l'argent sont haussiers depuis maintenant de nombreux mois, même de nombreuses années, mais avec vraiment une accélération haussière depuis janvier 2024 et depuis août 2025. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de moteurs de cette tendance haussière de fond de l'or et l'argent. Je traite ça dans Fast and Forex et je vous ai montré à plusieurs reprises que le fait géopolitique était un des principaux. Et aussi les achats d'or des banques centrales. Il y avait aussi la baisse du dollar américain, il y a les ETF, il y a beaucoup de choses. Alors, bien sûr, avoir de l'or, tant que sa tendance haussière de fond, tant qu'il n'y a pas de signaux techniques de renversement de tendance, eh bien, c'est effectivement bien de s'y être exposé. Maintenant, il faut avoir conscience que c'est un marché haussier mature. Et là où il faut faire attention, c'est qu'effectivement, dans les phases de risque systémique, le dollar américain peut être à nouveau recherché pour son aspect refuge. Et vous avez une corrélation inversée entre la tendance de l'or et, en tout cas, un dollar américain très haussier peut mettre la pression sur le prix de l'or. Parce qu'aux États-Unis, si vous voulez, lorsque vous interrogez les investisseurs institutionnels sur les raisons qui les poussent à aller vers les ETF gold, eh bien, c'est pour se couvrir contre la baisse du dollar américain. Vous voyez ici, vous avez les inflows sur les ETF US en bleu, et depuis plusieurs mois, c'était en lien, c'était positif, largement en lien avec la baisse du dollar. Mais regardez ce qui s'est passé. La première semaine qui a suivi le début de la campagne militaire qui a démarré le 28 février des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, il y a eu des outflows des États-Unis, des sorties de capitaux des ETF gold. Pourquoi ? Parce que le dollar a rebondi. Donc il faut faire attention à ça. Après, l'or, tant qu'il n'y a pas de signaux techniques de renversement de tendance, c'est une tendance haussière. Mais si vous voulez, au prix actuel, entre les 5 000 et les 6 000 $, il est proche des objectifs de cours de long terme. Pour l'instant, les moteurs haussiers sont là. Mais il faudrait faire attention à une situation où le dollar rebondirait si la Fed devait serrer sa politique monétaire. Alors, va-t-elle vraiment le faire alors qu'un nouveau patron de la Fed arrive et qu'il est pro-Trump, nommé par Trump? Bon. En tout cas, bon, être exposé à l'or et l'argent, oui, forcément, une façon de se couvrir face à un choc systémique. Et l'or et l'argent ont connu une verticalité. D'ailleurs, rappelez-vous l'argent qui récemment, fin janvier, a fait une séance à moins 47%, parce qu'il est sur des niveaux extrêmement élevés déjà en termes de market cap. Bon, il faut quand même être prudent. Alors, bien sûr, pétrole et énergie, hausse du prix du pétrole en cas de perturbation d'offres. Bon, bah ça je vous apprends rien. Pour ce qui est du prix du pétrole, je vous apprends absolument rien. Vous connaissez les zones de prix à surveiller, je vous les ai montrées à plusieurs reprises. Vous avez la zone d'alerte rouge au-dessus des $80. Pourquoi ? Parce que toute l'année 2025 a été passée sous $80. Donc lorsqu'on va calculer la contribution de l'énergie au taux d'inflation, elle est positive au-dessus de $80. Choc inflationniste, c'est au-dessus de $92-$94. Et je n'ai pas de mots si on va au-dessus des 130. Mais alors, entre 80 et 92, ça reste quand même sous contrôle. Sous 80, c'est vraiment l'apaisement. Donc c'est un marché qui reste en risque haussier au-dessus des 80. Notez attention, le RSI Weekly tape la même résistance ici que fut le point haut dans la semaine qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc bon, c'est une possibilité effectivement si le risque devient, encore une fois, face à un choc systémique. Je ne dis pas de le faire maintenant, je dis se couvrir en bourse face à un choc systémique. Et lorsque ce choc systémique est en lien avec une perturbation d'offre d'énergie, bah, ça peut paraître logique. De manière générale, tout choc systémique qui est lié à un fait géopolitique, vous allez avoir les acteurs majeurs de la défense en tendance haussière. Et là, ça va continuer. Tous les missiles, tout le matériel militaire là, que les États-Unis et Israël ont dépensé, ont utilisé, il va falloir reconstituer les stocks. Et on sait que c'est déjà énorme, tous les stocks. Nous savons que la Maison-Blanche passe des commandes énormes aux acteurs de la défense américains. Là, je pense qu'on a pour encore plusieurs années, en étant à l'achat des acteurs de la défense aux États-Unis, mais pas que, vous avez aussi les acteurs européens, je pense que là, il y a de quoi être bien couvert pour encore de nombreuses années. Je donne les codes ici. Lockheed Martin, Rheinmetall en Allemagne, General Dynamics, RTX Corporation, Northrop Grumman Corp, BAE System, Leonardo, Dassault Aviation, etc., etc. Boeing, bon, enfin voilà, il y a les pure players défense et les moins pure players défense. Les pure players défense, ici, je vous les remontre, ils sont là. Bon, là, effectivement, en fait, quelle que soit l'évolution du conflit géopolitique actuel, il va falloir reconstituer les stocks. Et puis, je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y en aura d'autres des conflits géopolitiques. Donc, ce conflit a montré à quel point c'est important d'avoir des stocks. Et des stocks bien plus massifs que ce qui avait été constitué. Donc, là, pour le coup, honnêtement, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de risque. Ce sont des tendances haussières de fond qui vont se relancer. Alors, face à un choc systémique, il y a des approches qui sont ensuite plus agressives, qui sont d'être exposées. Donc, alors c'est plus agressif qu'être en cash. Parce que le problème d'être en cash, c'est que vous pouvez subir l'inflation et une perte d'opportunité si les marchés finissent par se retourner à la hausse. Donc, faut être réactif. Donc, si vous ne voulez pas subir l'inflation ou prendre un risque de perdre des opportunités, eh bien, en phase de risque de choc systémique, il peut y avoir une autre solution qui est de s'exposer directement short, donc d'adopter une position short via les contrats futurs, via les contrats d'options, sur les indices boursiers de référence. Le contrat à terme le plus tradé du monde, c'est le mini contrat S&P 500. En Europe, c'est le contrat futur Eurostock 50. Vous avez aussi l'option d'utiliser les options put. Donc, moi, mon conseil est d'aller sur une duration de 3 à 6 mois, d'avoir des objectifs qui sont réalistes, de 10 à 20% de baisse par rapport au spot, sur une duration de 3 à 6 mois. Bah, écoutez, je vous donne. Alors, vous pouvez aussi vous exposer à la volatilité, puisque sur le VIX, je vous ai parlé du VIX la semaine dernière dans mon tour d'horizon, vous avez sur le VIX, vous avez, oui, des contrats futurs et des contrats d'options. Il y a même des CFD. Et peut-être même des ETF, vous voyez. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, typiquement, par exemple, sur le S&P 500, eh bien, si je cherchais à me couvrir, je prendrais une option put à duration 3 à 6 mois. Et en termes d'objectifs de cours, je vous dis 10 à 20%, on est à 6780. Voilà, ça donne du 6000. Donc, une option put à duration 3 à 6 mois avec un strike entre 5008 et 6100, 6100 étant ici l'ancien record historique. Voilà. Donc, duration 3 à 6 mois et un strike entre 5800 et 6100 points. Et effectivement, hein, vous avez la possibilité donc d'adopter une stratégie en s'exposant directement, en étant long volatilité sur le VIX. Ça, je vous ai donné les seuils d'alerte la semaine dernière. Le vrai seuil d'alerte, c'est de s'installer au-dessus des 29 mois sur le VIX. Derrière ces minimums, on ira chercher la zone de volatilité ici de la guerre commerciale à 60, donc il peut y avoir de l'upside. Ça peut être une autre façon de couvrir son portefeuille. Voilà, il y a vraiment plusieurs choix. Voilà, il y a plusieurs choix. Moi, j'essaye et je vous propose ici une synthèse. J'essaie d'être le plus complet. On peut être encore plus agressif en adoptant une position short sur les secteurs qui vont souffrir le plus directement, l'aérien, le tourisme. L'aérien, le tourisme, bon, je vous montre la chute libre d'Air France KLM, la chute libre de Lufthansa depuis le début du conflit. Donc voilà, ok. Par contre, une fois le conflit terminé, une fois la réouverture des lignes aériennes, Ça va repartir, ça va se retourner. Ce sont les premières à se retourner à la hausse. Mais c'est une façon agressive de se couvrir. Je suis parti du moins agressif au plus agressif. Hein. Alors, je termine par... Alors là, c'est tout un débat. Hein. Bitcoin, crypto. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Bitcoin a été relativement résilient, en tout cas dans les premières phases du conflit, mais lui, il subit son propre cycle, il y a beaucoup de choses. C'est une année de bear market, ce sera aussi l'année du bottom. Le narratif hors numérique, pour l'instant, n'a pas vraiment fonctionné, même si on est en début de phase de stabilisation du ratio Bitcoin-Gold. Par contre, vous avez ce mois-ci, d'ici le printemps, l'administration américaine pousse pour que le Clarity Act, déjà validé par la Chambre des représentants US, le soit par le Sénat américain. Et le Clarity Act, c'est enfin le cadre légal pour Bitcoin et les altcoins. Et les études montrent qu'il pourrait y avoir des centaines de milliards de dollars qui attendent que ce Clarity Act passe pour arriver sur les cryptos. C'est probablement une des bases du prochain bull run. Voilà. Le narratif hors numérique, nous avons pu observer que dans les premières, dans les, dans les, dans les premières, premières, 10 premiers jours du conflit, Bitcoin a surperformé les actifs risqués. Il n'a pas pour autant donné de signal bullish, d'accord? Et enfin, dernière approche, les actions décorrélées. Celles qui se foutent, mais alors royalement, de ce qui peut se passer dans le monde. Royalement. On a beaucoup dans le secteur de la santé, dans des secteurs complètement décorrélés. Tenez, je vais vous en donner deux. Par exemple, je vais vous donner la Française des Jeux. La Française des Jeux, machine à cash, revenu proche d'un support majeur, valeur de rendement. Elle se retourne à la hausse gentiment. C'était il y a un mois le support parfait. Monopole d'État. C'est ça, ils en ont là. Le titre n'en a mais rien à faire de la géopolitique. Rien à faire. Vous avez des titres, vous avez deux, j'en ai une dizaine en tête que je suis de très près. Par exemple, vous avez Valneva. Pourquoi il ne me la met pas ici, ma Valneva, là? Vous avez Valneva, qui est donc une biotech, voilà, qui est en étude. C'est le vaccin contre la maladie de Lyme qui devrait être validé cette année aux États-Unis. Le premier vaccin contre la maladie de Lyme, vous savez, celle d'éthique, c'est tout en bas, ça se retourne à la hausse. Énorme potentiel, rien à faire de la géopolitique non plus. Rien, mais rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle les stratégies décorrélées. Donc pour résumer, se couvrir en bourse face à un choc systémique, cash, placement monétaire, obligations souveraines, or, argent, dollar US, pétrole, énergie, actions du secteur de la défense, être short des indices boursiers via les contrats futurs, via les contrats d'options, put, être long de la volatilité via les contrats futurs ou les options, être short des valeurs cycliques, aérien, tourisme et encore d'autres. Le sujet crypto, Bitcoin se discute. Et enfin, les actions décorrélées. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de façons de se couvrir face à un choc systémique. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.